s'entendent pas. Beaucoup parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas. Je te connaissais pas, je pensais pas.
Oxmo Puccino en concert à l'Adidas Arena de Paris, c'est ce jeudi à 20h10 TU sur RFI.
Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, 6h30 à Dakar. Édouard Dupénoat, la CAF attend le cœur de la nuit pour dégainer ses sanctions.
Oui, mais RFI veillait au grain. Des matchs de suspension jusqu'à 5 pour Pape Thiaw, mais juste sur le calendrier de la CAF. Donc le mondial n'est pas concerné. Des amendes aussi pour les deux fédérations. Le gendarme du foot africain rend son verdict après la finale très mouvementée de la Coupe d'Afrique des Nations. Babacar Fall nous appelle de Dakar dans une minute. Le Sénégal et ses révélations, RFI à suivre aussi. Cette vidéo authentifiée à laquelle nous avons eu accès, c'est celle de la coque du Mersin, ce pétrolier victime d'une avarie au large de Dakar. Une avarie qui n'est pas accidentelle. Tout oriente vers des charges explosives dosées avec une très fine précision. En Côte d'Ivoire, un cadre de l'opposition du PDCI, inculpé notamment pour diffamation après une contestation électorale. Kali Siapo est laissé libre. Son procès se tiendra dans 3 semaines. Les recommandations d'Amnesty International en pleine période politique et électorale au Bénin. Et puis un fauteuil à prendre à l'Académie française, institution séculaire gardienne de la langue sur les bords de Seine à Paris. Boualem Sansal est pressenti pour ce siège.
Des amendes à plusieurs centaines de milliers de dollars et des matchs de suspension.
La CAF distribue donc ses coups de bâton 10 jours après la finale chaotique de la CAN. Entre le Maroc et le Sénégal, des deux côtés, les sanctions visent à la fois les fédérations nationales ainsi que des joueurs ou des entraîneurs précis. Justement, c'était prévu, mais c'est le sélectionneur sénégalais qui écope de la plus lourde réprimande, Babacar Fall.
C'est tard dans la nuit que la Fédération sénégalaise de football a reçu une notification des sanctions. La plus lourde est pour Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions, se voit infliger 5 matchs de suspension. Les joueurs Illiman Diaye et Ismaël Assar écopent de 2 matchs. Précision de taille, ces matchs de suspension ne concernent que les compétitions organisées par la CAF et donc les Lions peuvent envisager la Coupe du Monde sereinement. Les sanctions sont aussi financières. La Fédération sénégalaise de football va devoir payer une amende de 615 000 dollars pour mauvais comportement de ses joueurs, du staff technique et des supporters. La commission de discipline de la CAF décide aussi de sanctionner financièrement Pape Thiaw. Au-delà de ses 5 matchs de suspension, il devra aussi payer une amende de 5 000 dollars. Le Sénégal a 3 jours désormais pour faire appel. Et puis l'instance disciplinaire de la Confédération africaine de football a rejeté la plainte du Maroc qui demandait la disqualification du Sénégal. Babacar Fall, Dakar. RFI.
Sanction côté marocain avec le défenseur Achraf Hakimi suspendu pour 2 matchs, dont 1 avec sursis. Tout cela pour le serviette gate d'Edouard Mendy, comportement que la CAF juge anti-sportif. Ismaël Saïbari suspendu pour 3 matchs et condamné à une amende de 100 000 dollars. Quant à la Fédération Royale Marocaine de Foot, une amende également 315 000 dollars.
La CAF frappe fort, écrit Dakar Actu ce matin, alors que la presse marocaine fulmine une partie des réactions des journaux du continent après ces sanctions. Le reste à écouter dans la revue de presse après ce journal.
Retour au Sénégal d'abord avec ce document exclusif dont RFI peut donc vous rendre compte ce matin. Une vidéo qui montre les dégâts sur la coque du Mersin. Ce pétrolier en provenance de Russie, déclaré en grande difficulté fin novembre au large de Dakar. Les images que nous avons consultées révèlent les dégâts sur la coque et sous la ligne d'eau du navire. Il ne peut pas s'agir de dégâts accidentels. Tout porte à croire donc à un acte de sabotage intentionnel. C'est une enquête de Pauline Le Troquier.
Sur cette vidéo, consultée par RFI, filmée au lendemain de l'incident, la coque du Mersin est perforée au niveau de 4 points d'impact. Les brèches d'environ 1 mètre pour la plus importante laissent apparaître la tuyauterie du navire en partie dégradée. Ces images permettent de conclure à un sabotage à partir d'engins explosifs, selon plusieurs experts militaires, qu'il s'agisse de la netteté des brèches, de leur localisation en dessous de la ligne de flottaison ou encore de la propagation de micro-fissures autour des impacts principaux. Tout oriente vers la pose de mines magnétiques par des plongeurs. 5 kg kg d'explosifs minimum pour chaque brèche, poursuit un ingénieur spécialiste du secteur pétrolier offshore. Fait notable, les impacts sont tous concentrés au niveau de la salle des machines. Un ciblage réfléchi qui montre une volonté de neutraliser le navire plutôt que de le couler, lui et ses 39 000 tonnes de carburant à bord. Pour un spécialiste naval, seule une puissance disposant de moyens et de capacités de plongée avancée peut mener une opération si minutieuse. C'est la première fois qu'un navire soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe est visé dans les eaux africaines. Rien ne permet d'identifier ses auteurs. Seule certitude, ces derniers ont cherché à envoyer un message de mise en garde claire à Moscou. Pauline Troquier, Dakar, RFI.
À l'heure actuelle, le Mersin est toujours immobilisé à une vingtaine de kilomètres au large de Dakar. Selon le port autonome, le navire est stabilisé. Les brèches ont été colmatées. Une enquête avait été annoncée quelques jours après cet incident. Aucune conclusion officielle sur l'origine des événements n'a été rendue publique. Vous lisez une version complète de l'enquête de notre correspondante sur RFI.fr. L'aéroport de Niamey a été la cible d'une attaque d'envergure hier en milieu de soirée pendant environ une heure par des hommes armés non identifiés. Des tirs nourris ainsi que de très fortes détonations ont été entendus à l'intérieur de la base 101 de l'armée de l'air nigérienne, toujours dans cette zone aéroportuaire. Le calme est revenu, mais toutes les casernes de la capitale sont restées en alerte plusieurs heures. Il n'y a pas de bilan disponible à l'heure actuelle. Le Niger, qui par ailleurs recevait hier une importante délégation de ministres et d'officiels algériens, bientôt un an après le net refroidissement des relations entre Alger et l'Alliance des États du Sahel dans l'affaire du drone malien abattu. Il semble donc que les esprits reviennent à de meilleures dispositions, notamment parce que la manne financière, pétrolière et énergétique est en jeu, Guillaume Thibault.
C'est à la présidence que s'est jouée l'étape principale de cette tournée. Reçu par le général Abdourahmane Tiani, le ministre algérien du pétrole, Mohamed Arkab, a indiqué être venu avec un message du chef de l'État algérien, Abdelmajid Tebboune.
L'Algérie est venue avec une forte délégation aujourd'hui pour transmettre ce message du président de la République. Nous sommes à vos côtés, nous sommes des pays frères, nous allons réussir ensemble.
Réussir sur deux projets, notamment l'exploitation du champ pétrolier de Kafra. Le permis d'exploitation est partagé entre les deux États. La phase d'exploration est toujours en cours. L'Algérie, qui souhaite se diversifier et se développer sur le continent africain, tente aussi avec le Nigeria de faire avancer le chantier du gazoduc transsaharien. 4100 kilomètres entre les deux États, 13 milliards de dollars d'investissement, 70% de cette structure est achevée, mais les travaux, qui doivent être pris en charge par l'Algérie et le Nigeria, n'ont pas débuté au Niger. Alger a donc tout intérêt à retisser des liens diplomatiques, mais surtout économiques, avec Niamey.
Explication de Guillaume Thibault.
En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI inculpé hier à Abidjan.
Kalis Yapo, inculpé pour notamment diffamation ou encore trouble à l'ordre public. Le secrétaire exécutif du principal parti d'opposition ressorti libre de ses auditions. La justice lui reproche des propos critiquant l'invalidation du scrutin législatif dans une circonscription de Toumodi, dans le centre du pays. Binta Diagne est notre envoyée spéciale permanente.
Tout est parti d'un contentieux autour des élections législatives à Toumodi, près de Yamoussoukro. Là-bas, les résultats d'une circonscription ont été invalidés par le Conseil constitutionnel suite à des irrégularités relevées par Raymond Kofi Goudou, candidate du RHDP. Lors d'une réunion pour mobiliser les militants, Kalis Yapo, le secrétaire exécutif du PDCI, en déplacement dans cette localité, aurait tenu des propos jugés déplacés envers des personnes qui ont accusé le député PDCI sortant de Toumodi d'avoir triché. Mardi, Kalis Yapo a été auditionné par la police. Après une nuit passée en garde à vue, il a été présenté devant un procureur ce mercredi qui a décidé de l'inculper pour diffamation, trouble à l'ordre public et tribalisme. Notre combat pour la démocratie continue, affirme un cadre du PDCI qui, hors micro, dénonce, je cite, un climat d'intimidation envers les dirigeants politiques. Dans un communiqué, le PDCI appelle ses militants à la retenue et à la sérénité. Le procès de Kalis Yapo est prévu le 20 février. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Après l'Union africaine, c'est au tour de la CEDEAO de supprimer les sanctions qui avaient été infligées à la Guinée après le coup d'État militaire en 2021. Communiqué publié hier soir où l'organisation ouest-africaine indique lever avec effet immédiat toutes les sanctions résiduelles contre la République de Guinée et les personnes impliquées. Fin de citation. Amnesty International profite de la période électorale au Bénin pour publier un long manifeste qui va être adressé aux députés fraîchement élus et aux candidats à la présidentielle d'avril. L'ONG espère que les élus et futurs élus s'empareront des recommandations qu'elle formule. Citons par exemple la garantie de la liberté de réunion et de manifestation, l'accélération des procédures judiciaires ou encore la fin des détentions arbitraires. Jean-Luc Aplogan assistait à la publication de ce manifeste.
Le directeur exécutif d'Amnesty International Bénin expose d'emblée les motivations qui ont guidé l'élaboration de ce manifeste. Il dresse un inventaire de quelques cas de violation des droits humains. Dieudonné Dambuétor parle notamment de vagues d'arrestations, de surpopulation carcérale, de personnalités politiques d'opposition détenues arbitrairement. Fin de citation. À partir de ce constat, il formule les suggestions suivantes.
Garantir les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. Que il y ait des conditions de détention plus humaines. Enquêter sur les allégations d'actes de torture et de mauvais traitements.
Concernant la surpopulation carcérale, il suggère que la détention provisoire ne soit utilisée qu'en dernier recours. Le document s'intéresse au code numérique et propose la révision d'un article qui criminalise les fausses informations et le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Emmanuel Lokonon de l'Association des blogueurs plaide également en faveur de cette révision pour la raison suivante.
La liberté de la presse qui a fortement reculé et restreint intimement le droit à la liberté d'expression.
L'ONG et ses partenaires annoncent que les députés de la future assemblée recevront chacun un exemplaire du manifeste, tout comme les candidats à l'élection présidentielle. Ils souhaitent qu'ils en fassent une priorité. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Direction maintenant le Nigeria voisin qui multiplie contacts sécuritaires et accords de défense. Est-ce à cause des menaces états-uniennes ou des pressions de la société civile face au kidnapping de masse? Quoi qu'il en soit, Abuja lance des lignes dans plusieurs directions. Des rencontres entre la direction du Centre national de lutte contre le terrorisme et des responsables américains et français. Le président Tinubu en Turquie ces derniers jours pour signer plusieurs accords bilatéraux, dont l'un sur les questions de défense. Et les explications de notre envoyé spécial, Lisa Fabian.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme que son pays est prêt à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme avec le Nigeria. Nous avons évalué les opportunités de coopération, en particulier en ce qui concerne la formation militaire et le renseignement, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec Bola Tinubu. Durant leur déplacement à Ankara, les officiels nigérians ont notamment pu rencontrer les représentants de certaines compagnies d'armement locales. Cette visite a eu lieu moins d'une semaine après la venue d'une délégation américaine de haut niveau à Abuja et alors que les États-Unis et le Nigeria affichent leur volonté de renforcer leur coopération sécuritaire. Le Nigeria semble bien multiplier les contacts puisque ce mardi, c'est le chef du commandement pour l'Afrique, le général français Pascal Yanni, qui a rendu une visite de courtoisie au chef d'état-major de la marine nigériane pour évoquer la collaboration existante dans le golfe de Guinée. Il a également été reçu par le coordinateur du Centre national de lutte contre le terrorisme à Abuja avant de se rendre au siège de l'état-major de la défense nigérian. Lisa Fabian, Lagos, RFI.
Deux mois après sa libération de prison, enfin, Boualem Sansal pourrait faire son entrée à l'Académie française. Ce soir, cette institution gardienne de la langue française, fondée en 1635, doit élire un nouvel académicien. Et l'écrivain franco-algérien est donc pressenti pour l'un des fauteuils vacants. Ce serait une consécration littéraire à très forte portée symbolique, puisque la détention de Boualem Sansal avait cristallisé les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Et c'est Carlotta Morteo qui revient sur ce parcours.
Contempteur acharné de l'islamisme, critique cinglant du pouvoir algérien depuis Abdelaziz Bouteflika, Boualem Sansal, 82 ans, n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Depuis longtemps censuré dans son pays, ses propos sur la question sensible du tracé des frontières entre l'Algérie et le Maroc lui ont valu de tomber sous le coup du code pénal algérien pour terrorisme et menace à l'intégrité du territoire. Lui qui s'est toujours refusé à l'exil a été arrêté fin 2024 à l'aéroport d'Alger, puis condamné à 5 ans de prison, victime d'une détention politique, selon la France, qui avait reconnu quelques mois plus tôt la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Devenu l'otage d'un bras de fer diplomatique entre les deux pays, le franco-algérien, âgé et affaibli par une année derrière les barreaux, a finalement été gracié en novembre dernier par le président Abdelmadjid Tebboune à la faveur d'une médiation allemande. Symbolique, son entrée à l'Académie française n'en serait pas moins une reconnaissance de son écriture foisonnante et de son œuvre à la veine pamphlétaire, critique des totalitarismes depuis son premier roman, Le Serment des Barbares, publié en 1999 en pleine décennie noire.
Carlotta Morteo, merci beaucoup.
Merci Edouard. 6h44, en temps universel. RFI tout de suite, c'est notre revue de presse africaine. Avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, la polémique toujours après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, l'information est tombée tard hier soir, mais elle a été immédiatement rapportée et commentée par la presse en ligne. Les sanctions de la CAF, la Confédération africaine de football, sont tombées, constate le Soleil à Dakar. Sanctions après la finale houleuse de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. La CAF frappe fort, s'exclame Dakar Actu. Finale Maroc-Sénégal, pluie de sanctions, lance Séné Plus, avec plus de 600 000 dollars d'amende et une suspension de 5 matchs pour le sélectionneur Papiao. La CAF a sévèrement sanctionné la fédération sénégalaise pour les débordements survenus lors du match. La fédération royale marocaine de football et ses joueurs n'ont pas été épargnés, pointe encore Séné Plus. Le défenseur Achraf Hakimi a été suspendu pour 2 matchs officiels. Son coéquipier Ismaël Sebari a reçu, lui, une suspension plus lourde de 3 matchs assortie d'une amende de 100 000 dollars. Et puis surtout, relève encore le site sénégalais, le jury disciplinaire de la CAF a statué sur la réclamation déposée par la fédération marocaine concernant de supposées violations des règlements par la partie sénégalaise. Cette plainte, qui invoquait les articles 82 et 84 du règlement de la compétition et qui pouvait conduire à l'invalidation du titre pour les Sénégalais, cette plainte a été officiellement rejetée. Les Lions de la Teranga restent donc bien champions d'Afrique.
La presse marocaine fulmine.
Ce verdict était très attendu. Pointe le site Le 360. Il était censé refermer l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire récente de la compétition, mais au lieu d'apaiser, cette décision soulève déjà une vague d'incompréhension, s'indigne le site marocain, tant elle paraît déséquilibrée dans la lecture des responsabilités, indulgence manifeste envers les principaux acteurs du chaos côté sénégalais et rigueur extrême à l'encontre du Maroc, pays hôte. Et une question centrale demeure, s'agace encore Le 360, où est passée la qualification juridique du retrait de l'équipe sénégalaise et de l'interruption du match. La décision de la CAF évite soigneusement de trancher sur le point le plus grave, à savoir le refus de reprendre le jeu, pourtant au cœur du débat et explicitement encadré par les règlements de la compétition. Aucune mention claire d'un abandon, aucune application directe des articles les plus lourds du règlement. Le fond du problème est contourné. Et le 360 de conclure, ces décisions vont certainement alimenter le malaise, car une finale de CAN interrompue, des joueurs quittant la pelouse, des tribunes envahies et un match suspendu sous les yeux du président de la FIFA constitue un précédent majeur et ce précédent n'est pas traité à la hauteur de sa gravité.
Et la CAF rend un verdict injuste et incompréhensible. Ça, c'est ce que dit Média 24.
Les sanctions prononcées à l'encontre de la partie sénégalaise sont dérisoires au regard des faits, renchérit en effet Média 24. Celles contre le Maroc sont disproportionnées et infondées. C'est comme si le jury, soumis ou pas à des pressions, avait voulu équilibrer entre les deux parties. Exemple, souligne Média 24, l'entraîneur sénégalais Pape Diao paiera une amende de 100 000 dollars pour avoir appelé ses joueurs à quitter le terrain et même punition pour Ismaël Sebari qui n'a fait que jeter une serviette sur le gardien sénégalais.
Enfin, autre différent, autre polémique, le duel entre Madrid et Rabat pour savoir qui accueillera la finale du Mondial 2030.
Le ton monte entre le Maroc et l'Espagne, co-organisateur du tournoi. Si ce Mondial se déroulera entre le Maroc, le Portugal et l'Espagne, une seule nation accueillera la finale, relève Afrique.com. Et le gouvernement espagnol a déjà pris position. Pour le président du Conseil supérieur des sports, la finale se tiendra bien sûr, a-t-il dit, en Espagne. De plus, Rafael Luzan, le président de la Fédération espagnole, a pointé du doigt les récents incidents de la CAN pour convaincre la FIFA d'écarter le Maroc de l'organisation de la finale de la Coupe du Monde. Une finale que le Maroc veut absolument accueillir dans le gigantesque stade Hassan II de Ben Slimane, près de Casablanca, actuellement en construction. Bref, la partie de bras de fer, Andréane, ne fait que commencer.
Frédéric Couteau, dans une demi-heure, la revue de presse internationale avec cette question à la une entre Washington et Téhéran, confrontation aux négociations.
Et bien malgré les propos belliqueux de part et d'autre, les discussions s'intensifient en coulisses, nous le verrons tout à l'heure, entre les États-Unis et l'Iran.
Rendez-vous 8h15.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et oui, l'Iran et les États-Unis encore à la une de l'actualité ce jeudi, alors que les menaces américaines se font toujours plus fortes à l'égard du régime iranien. Hier, un mois après le début du mouvement de contestation lourdement réprimé par les autorités, Donald Trump a précisé que le temps était compté avant une attaque américaine, pressant Téhéran de conclure un accord sur le nucléaire. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles, et cela afin d'étudier notamment la proposition italienne d'ajouter les gardiens de la révolution à la liste des organisations terroristes de l'UE. La France dit soutenir cette initiative. L'actualité, on en parlait, c'est aussi les sanctions décidées par la CAF, la Confédération africaine de foot, et infligées aux finalistes de la CAN, le Sénégal et le Maroc, après le match particulièrement chaotique qui a abouti sur une victoire des Lions de la Teranga. Des suspensions de joueurs, Achraf Hakimi notamment, mais aussi le sélectionneur sénégalais, mais qui ne concerne pas le mondial. On y revient dans le journal des sports dans une heure. La police américaine de l'immigration a annoncé mercredi avoir suspendu deux agents impliqués dans la mort d'Alex Preti à Minneapolis. Reportage sur place à écouter dans le prochain journal. Et puis trois morts en Ukraine cette nuit après des frappes russes sur la région de Zaporijjia. On parle du Bénin à présent dans la perspective de la prochaine présidentielle en avril, après de larges victoires électorales pour la majorité présidentielle, alors que l'opposition se retrouve totalement absente du corps parlementaire comme en 2019. À la tête du parti Les Démocrates, l'ancien président Thomas Boniyahi dénonce une politique d'exclusion. Sa formation n'a pas été autorisée à se présenter à présenter de candidat à la présidentielle. Écoutez à ce propos l'analyse de Gilles Yabi, notre grand invité à ce matin, le directeur exécutif du groupe de réflexion ouest-africain, Wati. Il répond à Sidi Yansané.
Bonjour Gilles Yabi.
Bonjour.
La majorité présidentielle vient de remporter la totalité des sièges d'élus au communal, en plus d'avoir gagné les 109 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Quel est votre regard sur ces résultats quand on sait que le Bénin a été reconnu pour son pluralisme politique ?
Oui, ce sont des résultats qui sont spectaculaires, puisqu'effectivement cela signifie une Assemblée nationale exclusivement composé de députés soutenant l'action du président Patrice Talon, et au niveau des élections locales, communales, on a effectivement le même résultat spectaculaire, l'absence de toute représentation de partis d'opposition dans les conseils communaux. C'est très clairement une première au Bénin. Ce n'est pas un résultat en réalité accidentel, c'est probablement assez proche de ce qui a été souhaité dès lors que des réformes ont rendu extrêmement difficile la possibilité pour un parti d'avoir le moins de députés, notamment cette règle des 20% imposée pour toutes les circonscriptions électorales, un seuil extrêmement élevé qui signifie qu'un parti peut être extrêmement dominant dans beaucoup de partis du Bénin et en même temps ne pas être capable d'avoir un seul député à l'Assemblée nationale.
Alors justement, rappelons que le principal parti d'opposition, les démocrates, n'était pas autorisé à participer à ces communales et ne sera pas non plus autorisé à présenter un candidat à la présidentielle d'avril prochain. Précisez-nous s'il vous plaît, Gilles Yabi, quelles sont les raisons avancées par les autorités béninoises pour justifier ces exclusions?
Il y a à nouveau beaucoup de règles qui ont été instituées dans une nouvelle loi électorale avec des exigences très importantes. J'ai cité le seuil, mais il y a aussi les parrainages, hein, par exemple, qui sont nécessaires pour une candidature à l'élection présidentielle pour qu'elle soit validée. Et ces parrainages ne sont pas des parrainages citoyens comme dans d'autres pays, c'est des parrainages exclusivement politiques venant de députés ou de maires. Et ce seuil-là aussi, au niveau des parrains, avait été relevé. Donc, on voyait bien quand même qu'il y avait eu beaucoup de réformes et qui allaient restreindre considérablement l'espace d'expression politique. Mais à nouveau, on ne peut pas parler de décision d'exclusion, même si le résultat est le même, finalement. Concernant les élections locales, c'est des dossiers qui étaient incomplets et qui a effectivement abouti à non-validation de la candidature du parti Les Démocrates, mais là aussi, en tout cas, le résultat, de toute façon, est le même. C'est une absence totale de représentation de l'opposition et donc de la diversité politique en réalité du pays. Je crois que c'est quand même un résultat qui montre un changement assez radical dans la posture démocratique du Bénin.
C'est vrai que depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, l'opposition n'a jamais été aussi peu représentée dans les urnes. Gilles Yabi, diriez-vous, comme beaucoup d'observateurs à l'époque, que le président Talon a définitivement cédé à la tentation autoritaire?
Lorsqu'on l'écoute et qu'on écoute son dernier discours sur l'état de la nation ou à l'Assemblée nationale, en réalité, il y a une très grande clarté dans sa vision. La démocratie, oui, c'est important, mais c'est peut-être pas aussi important que le développement économique, la modernisation du pays, et qu'au fond, le choix qu'il a fait, c'est de réformer profondément les institutions politiques du pays, selon la vision personnelle qu'il a à nouveau de ce qui est important, et c'est tout à fait voulu d'avoir un espace politique restreint et d'avoir aussi à nouveau un espace de liberté restreint et d'avoir quand même deux modifications importantes de la Constitution. Donc pour moi, ce n'est pas tellement seulement les élections et la non-représentation de l'opposition, je crois, qui pose problème. La vision du président Talon entraîne le Bénin dans une direction qui, de mon point de vue, crée aussi les conditions de beaucoup de tensions et dans un environnement régional qui lui-même est très fragile. Je suis assez inquiet par rapport à cette évolution parce que dans un tel environnement, on a besoin plutôt d'unité, on a besoin de cohésion, on a besoin d'espace d'expression politique en interne pour faire face aux différents défis, y compris le défi sécuritaire.
Merci Gilles Yabi.
Merci à vous.
Le directeur exécutif du cercle de réflexion Wati, basé à Dakar, Gilles Yabi, il répondait à Sidi Yansané. Maman, on vous retrouve comme chaque jour et aujourd'hui on parle de la prochaine Coupe du Monde de foot qui pourrait, vous nous le dites, se dérouler en télétravail.
Oui, aujourd'hui avec tout ce qu'il se passe aux États-Unis d'Amérique, de Donald, l'homme au brushing orange, États-Unis, l'un des trois pays organisateurs de la Coupe du Monde de football 2026. États-Unis, ce pays où des gars encagoulés arrêtent les gens dans la rue comme ça, juste parce qu'ils sont bronzés ou juste parce qu'ils ont un accent. Le Gondwané lambda, grand amateur de football devant l'éternel, bronzé lui-même depuis des siècles et qui parfois ne parle même pas anglais, eh ben le Gondwané lambda se demande sérieusement si la prochaine Coupe du Monde ne va pas entrer dans l'histoire comme la première Coupe du Monde 100% numérique, une Coupe du Monde de football FIFA 26 qui se jouera sur PlayStation. Ben oui, en ce moment, les États-Unis, ben c'est devenu le 11e opus de Fast and Furious avec comme sous-titre « La police tire sur tout le monde ». Attends, dès que tu mets le nez dehors dans une ville états-unienne, ben on te demande tes papiers, non, on t'embarque, on t'enlève, on te kidnappe pour t'enfermer dans un endroit inconnu et on te demandera tes papiers que 3 mois plus tard, si t'as de la chance, si on t'a pas tiré dessus. Si t'es un joueur d'une équipe nationale gondouanaise venu pour la Coupe du Monde de football et que t'es juste sorti faire un peu de tourisme dans la rue, eh ben, mon ami, tu risqueras d'aller faire ta mise au vert dans les cellules d'ICE contre ta volonté et tu rentreras chez toi expulsé, menotté quand la Coupe du Monde sera terminée sans toi. Attends, tu pourras même t'estimer heureux d'avoir pu prendre l'avion et aller fouler le sol états-unien, parce que si ton pays est sur la liste de ceux interdits de visa US par Donald Trump, l'agent consulaire orange, eh ben tu serais resté à la maison devant ta télé ou devant ta console de jeu. Eh oui, toutes les équipes qui ont durement mérité leur qualification pour la Coupe du Monde de football après des matchs qualificatifs éreintants découvrent aujourd'hui qu'il y a d'autres matchs de qualification et ils se passent au consulat des États-Unis où tu dois faire la queue pour avoir le visa. Ok, pourquoi vous voulez voyager aux États-Unis d'Amérique? Attends, tu dis quoi? Mais on s'est qualifié pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans ton pays, non? Tu n'es pas au courant? Ce serait la première compétition garantie 100% sans supporters qui se battent dans les tribunes ou envahissent le terrain. Le seul risque pour un supporter, ça sera de renverser sa bière sur son clavier ou de se faire bannir du stream par un modérateur zélé. Les ramasseurs de balles n'auront même pas besoin de piquer les serviettes des gardiens de but puisque les gardiens de but seront restés à la maison. Pas besoin de stade à 5 milliards de dollars, juste des serveurs hébergés par Netflix. Quant à la VAR, eh bien rien ne change, sauf que cette fois-ci, l'arbitre peut muter les joueurs qui lui parlent mal. Bref, on vit une époque formidable, on voulait une Coupe du Monde qui unit le monde entier, on va finir avec un tournoi d'e-sport géant où le vainqueur sera celui qui a le meilleur forfait internet et qui aura réussi à échapper à ICE, la police de Donald. À lundi.
À lundi, maman.
Ce samedi sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Entre Donald Trump et la Fed, les tensions sont à leur comble. Mis sous pression et menacé de poursuites pénales, le président de la Banque centrale des États-Unis défend son indépendance. Quelles sont les conséquences de ce bras de fer ? Pour l'économie comme pour la démocratie, les enjeux sont colossaux.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
Maladies tropicales négligées, les atteintes de la peau.
Demain.
Émission Questions de femmes, la vaccination et les maladies infantiles.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Juliette Garbrandt.
C'est un phénomène discret mais en pleine expansion. À Dublin, des investisseurs chinois rachètent à grande échelle des appartements et des maisons, parfois sans même les visiter. Que ce soit pour spéculer ou pour résider dans l'Union européenne, ces clients fortunés alimentent la flambée des prix de l'immobilier dans la capitale irlandaise.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Née dans une famille marocaine installée en France, Samira El Ayachi se demande comment se construire comme femme entre deux pays, deux langues, deux cultures. Et si la réponse était dans la littérature ? Comme l'indique le titre de son roman,